Bonjour mesdames, messieurs. Bien, nous allons aujourd'hui nous un peu stagner sur les problèmes que nous avons commentés et tout d'abord sur la dernière question envisagée qui était celle de l'avenir en définitive. C'est-à-dire, nous nous demandions si à nouveau notre représentation de la Vesta n'allait pas dans les prochaines années se modifier à nouveau radicalement, en ce sens que nous ne le considérerions plus comme une double liturgie, mais comme un système modulaire où chaque texte était susceptible d'être intercalé entre les chapitres du Yasna, de manière facultative, selon le type de cérémonie que l'on entend organiser, et même, plus fondamentalement, si chaque texte de l'Avesta récent, que nous possédons en tout cas, n'avait pas été composé dans ce but, c'est-à-dire dans le but d'être intercalé. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous préoccuper un peu de l'avenir. Nous n'allons pas faire de l'historiographie, mais peut-être d'observer quelles perspectives ce type de représentation pourrait ouvrir dans la représentation que nous nous faisons, par exemple, d'un texte comme le Hadokht Nask, dont nous savons depuis 2008 qu'il peut être intercalé dans l'Yasna, voir quelles implications cela peut avoir et même quel enseignement cela nous apporte du point de vue documentaire sur le sens tellement controversé, comme vous savez, des Gathas. Donc le Hadokht Nask, deux chapitres, je vous disais, le premier qui apparaît comme un commentaire de la formule Hashem Vohu, le second qui est une sorte de récit célèbre, fameux, fort exploité, parce qu'il décrit d'une manière tellement explicite, inusuellement explicite pour un texte iranien ancien, le processus d'accès à l'au-delà à travers trois phases, hein, la dérédiction de la mort durant trois nuits d'abord, puis à l'apparition de la troisième aurore, la rencontre de l'âme masculine avec l'âme féminine, leur dialogue matrimonial comme troisième volet, et puis enfin finalement le départ commun vers l'au-delà et la réception dans l'au-delà par Ahura Mazda. Mais premier chapitre, commentaire de l'Hashem Vohu. L'Hashem Vohu, il faut peut-être que je commence l'exposé aujourd'hui par une mise au point sur quatre formules brèves qu'il est convenu d'appeler en anglais « Holy Prayers », en allemand « Heilige Gebete », en français on dit « Prières sacrées ». Ce sont des appellations que je n'aime pas parce que je ne sais pas exactement ce qu'est une prière. Seul l'Hashem Vohu fonctionne effectivement aujourd'hui, à partir d'une certaine époque, le texte lui-même le dit, comme une prière au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose que l'on prononce avant de manger, on le dit carrément, en se couchant, en s'éveillant, etc. Donc là, peut-être que le terme prière est exact, mais les autres, on ne voit pas bien si ça correspond à ce type d'usage. Alors, je préfère parler de formules. Il y en a quatre. Il y en a quatre. La première est la Unavairia. La seconde, la Shem Vohu. La troisième, le Yenke Hatam. Dans l'édition de Geltner, dans l'édition de la Vesta de Geltner, ces trois premières formules figurent en introduction au texte de la Vesta ancien et des Gathas, puisqu'ils occupent dans l'édition de Geltner respectivement la strophe 13, 14 et 15, les trois dernières du Yasna 27, et les Gathas commencent avec le Yasna 28. La quatrième formule, au contraire, survient immédiatement après les Gathas. Yasna 54.1, l'Aryamanishia. Ces quatre formules, leur statut d'ancienneté relative, la langue, la strate linguistique à laquelle elles appartiennent, n'a jamais été envisagée avec système, et vous comprenez immédiatement pourquoi, à une époque où l'on considérait les Gathas comme le seul monument, le seul document représentatif de l'Avesta ancien, pouvait considérer que de toute manière ces ces quatre formules étaient plus récentes que les Gathas et elles ne faisaient tout simplement pas partie du corpus gathique. Ce n'étaient pas les Gathas, même si elles rôdent autour par leur situation dans l'édition de Geltner. Évidemment, ce qui va ouvrir la discussion de manière décisive, c'est l'édition du Yasna Haptankaiti par Narten en 1986. Nous en reparlons dès la prochaine fois, mais c'est une date fondatrice, parce que Narten démontre, au-delà de toute contestation, je crois que personne au monde ne conteste cela, que le Yasna Haptankaiti est un document intercalé dans les Gathas, hein, et est un document aussi ancien linguistiquement que les Gathas. Donc, à la notion de Gatha, de gathique, de langue gathique, nous devons substituer celle d'avestancien, un avestancien composite. Gatha plus Yasna Haptankaiti est une langue non plus gathique, mais une langue vieille avestique, dont les Gathas et le Yasna Haptankaiti sont les documents. Donc, à ce moment-là, la discussion est ouverte. Est-ce que, vous voyez comment le problème se pose, est-ce que les quatre prières, les quatre formules, font partie de l'Avesta ancien ou de l'Avesta récent, hein? Question peut se poser. Alors, cela pose évidemment la question pour la critique textuelle à cet égard, comment peut-on décider si un texte est vieil avestique ou avestique récent? Qu'est-ce qui permet d'en décider? Il y a d'abord deux critères formels que, pour ma part, je regrette que l'on exploite et je vais dire pourquoi. Ces deux critères formels sont, d'une part, l'allongement systématique des voyelles finales. C'est une caractéristique des Gathas, du Yasna Haptankaiti, donc du vieil avestique en général. Et le second critère formel, c'est la préservation des occlusives sonores intervocaliques. Par exemple, pour donner un exemple, pour que ce soit bien clair, l'allongement des voyelles finales, ça ne demande pas d'explication particulière. Si nous avons une forme qui est dadat, il donne, l'occlusif sonore intervocalique est préservé et en gathique, elle se spirantise, elle est spirantisée dans l'Avesta récent, qui comporte la forme dadat avec nous. Nous transcrivons par delta, un delta grec qui est censé reproduire l'aspirantisation. Bon, mais ces critères sont tout à fait relatifs. Première question, c'est que l'allongement n'est probablement pas réel, il représente la modulation particulière d'une élocution particulièrement emphatique lorsque l'on prononce les textes de l'avestique ancien. Cela n'a pas de réalité linguistique. Quant à la préservation des occlusifs sonores intervocaliques, c'est évidemment un trait, un indice plus sérieux, mais on peut imaginer que le texte de l'Avesta ancien ayant été canonisé avant celui de l'Avesta récent, on a préservé une tradition conservatrice de la prononciation, tandis que probablement que lors de la composition des textes de l'Avesta récent, les sonores intervocaliques étaient préservés. Dans la langue de ces auteurs, l'Avesta récent présentait la même caractéristique, mais que progressivement, la transmission orale a modifié cet aspect. De surcroît, et surtout peut-être la troisième faiblesse de ces critères, c'est que c'est remarquablement imitable. C'est même tellement imitable que dans le chef de l'école d'Erlangen, on a inventé pour désigner les textes qui procèdent à cette imitation de textes pseudo-gathiques, c'est-à-dire des textes qui, en quelque sorte, se présentent sous l'apparence extérieure du gathique, mais ne sont pas, en réalité, des textes vieillavestiques. Donc, je crois que ces trois critères ne doivent pas être retenus. Si nous les appliquions, les quatre formules sont vieillavestiques, hein, présentent ces caractéristiques formelles, il n'y a aucun doute. Mais là n'est pas la question. Alors, il y a les critères linguistiques absolus. Ce sont ceux que, en 1989, dans Der Sassanidische Archetypus, Hoffmann et Narten vont appliquer. Les deux critères, il y a deux seuls critères linguistiques absolus pour caractériser un texte vieil avestique par rapport à un texte avestique récent. Le premier, c'est la préservation de la catégorie verbale de l'aoriste. Ceux d'entre vous qui ont fait du grec savent que c'est le système fondamental du grec, comme celui des plus anciennes, niveaux du sanskrit et de l'avestique, parce que le système verbal oppose systématiquement le présent à l'aoriste. C'est une représentation qui est aspectuelle et pas temporelle. Ça nous ennuie d'ailleurs parfois pour traduire certains passages. La date que vous avez ici est un présent. Il s'oppose par ailleurs à... C'est un présent en redoublement. Et il s'oppose à un aoriste qui est date. Il donne, il donne. La date est un présent en redoublement. Date, un aoriste radical. Une forme comme celle-ci n'existe plus en avestique récent, sauf par emprunt. Un emprunt, c'est très rare. Je ne crois même pas que, effectivement, cette forme ait été effectivement empruntée. Donc, la présence d'une forme verbale que nous pouvons analyser comme aoriste est un trait significatif du vieil avestique. Deuxième trait significatif, ce sont les formes enclitiques des pronoms de la première et de la deuxième personne du pluriel. Sous la même forme « no », l'avestique récent réunit l'accusatif, le génitif et le datif du pronom de la première personne du pluriel, de nous, pour nous, ou bien nous. Nous représente d'ailleurs un nas, nas. C'est une forme qui rappellera aux sanskritistes, ils comprendront cela comme une forme de sandhi, ce qui est exact pour nas. Tandis qu'en vieil avestique, c'est plus complexe. Le vieil avestique distingue encore l'accusatif du génitif datif. Le génitif datif, c'est purement graphique, c'est aussi nas, forme vieil avestique et neue. Mais l'accusatif, la forme est nor. Nor, ce qui représente, dans son cas, une forme avec allon, nas. C'est le latin « nos », d'ailleurs, qui présente aussi une voyelle longue. Voilà deux critères. Ceux-là, ils sont absolus. Si on les trouve dans les textes, ben, on peut être sûr, nous avons affaire à un texte vieillavestique. Et alors, si nous procédons comme cela, ce qu'ont fait donc Hoffmann et Nartain en 89, ils vont arriver à cette conclusion qui sonne un peu empirique si on n'a pas ces deux critères absolus en tête, n'est-ce pas, c'est de dire, voilà, il y a une formule qui est, elle, à coup sûr vieille avestique. C'est la quatrième, c'est l'aria manichia. L'aria manichia est une formule vieille avestique. Ben oui, il y a trois aoristes, elle contient trois aoristes. Donc, c'est très clair. Alors, la Shemvohu et la Wunavairia, dit Hoffmann Nartain, pourraient être vieille avestique. Pourrait l'être, ça signifie qu'aucun critère absolu ne permet de l'établir, mais qu'elles paraissent anciennes. Ensuite, le Yenke Hatam, là c'est très vite, son cas peut être réglé très vite, car en 1982, quelques années avant, Johanna Nartain elle-même avait très bien démontré que la formule Yenke Hatam était tout simplement une adaptation en avestique récent, relativement archaïque, de la dernière strophe du Yasna 51 gathique. C'est une réécriture, si je puis me permettre, l'écriture n'y est pour rien, disons un remodelage de la strophe 51-22 des Gatha. Donc on peut à coup sûr exclure ces deux formules. Dès lors, cette formule-là. Alors, il nous reste à déterminer les deux formules qui pourraient être, comme disent Hoffmann et Nartain, vieille avestique. Il y a un critère que l'école d'Erlangen n'a jamais aimé utiliser, c'est la métrique. Hoffmann, ouvertement, explicitement, le disait oralement, partageait l'opinion de Bartholomé. On ne peut jamais faire intervenir l'argument métrique, ou je ne veux pas faire intervenir ces arguments-là. Or, la métrique, pourtant, ici, est décisive. Et dans notre travail sur les textes vieilles avestiques, Éric Pirard et moi avons retenu la Wunavairia et l'Aria Manichia, bien sûr, comme les deux seules formules faisant véritablement partie du corpus vieilles avestiques sur la base de l'argument métrique. Car tout de même, il est très fort. Il n'est pas spéculatif, n'est-ce pas ? La Wunavairia est une strophe de même structure que les strophes de la première gatha, c'est-à-dire qu'elle répond sans faille, alors qu'il y a tellement de possibilités, trois vers de 7 plus 9 syllabes. Les mystiches tombent après la 7e syllabe. La Ahunavaya est une strophe de structure, je vais dire, ahunavatique, comme la première gatha. Alors, étrangement, on n'a jamais tenu compte du critère qui avait pourtant été relevé par Geltner, l'éditeur de l'Avesta, bien avant qu'il commence à éditer l'Avesta, lorsqu'il était encore un jeune chercheur, en 1882, il avait relevé que l'Ayamanishya était une strophe analogue à celle de la dernière gatha, du Yasna 53. Or là, le hasard peut encore jouer beaucoup moins, puisque la dernière gatha, comme je vous l'avais déjà exposé, présente une structure métrique extrêmement complexe que le hasard ne peut certainement pas reproduire, c'est-à-dire deux vers d'abord de 7 syllabes plus 5, suivis de deux vers de 7 plus 7 plus 5. Il faut avouer que pour reproduire ce schéma métrique, cette répartition des syllabes dans un tel schéma métrique, le hasard est tout de même fort difficile. Or, cela avait été vu par Geltner en 1882. Alors maintenant, imaginons ce qui se passe. Le Yasna 27, 13, la Ahunavairya qui précède immédiatement la première gatha, même structure, l'Aryamanishya qui suit directement le Yasna 53, Yasna 54, hein, voyez bien la conclusion qu'on peut en tirer immédiatement, hein, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas deux prières indépendantes. L'Ahunavaya est tout simplement la première strophe de la première gatha et l'Aryamanishya, la dernière strophe de la dernière gatha. Mais simplement, il y a eu un souci d'ornementation, n'est-ce pas ? On a mis en exergue la première strophe et on a mis en point d'orgue la dernière, simplement. Il faut... structurellement, ces strophes appartiennent au texte qui le suit dans le cas de la Navarya ou bien qui précède dans le cas de la Ahunavaya. Alors, il faut d'ailleurs, ce qui nous a échappé à Éric Pirard et moi à ce moment-là, mais nous n'en étions pas encore là, comme je me suis efforcé de vous l'expliquer lors des cours précédents, nous n'avions pas encore perçu, nous n'étions pas conscients de l'importance et de la prééminence des manuscrits liturgiques sur les manuscrits exégétiques. Mais tout de même, si on lit la paracritique de Geltner, quelque chose saute aux yeux. C'est que l'Hachem Vohu et le Yenghe Hatam, qui occupent les strophes 14 à 15, ne sont là qu'en vertu des manuscrits exégétiques. Aucun manuscrit liturgique que nous possédons ne fait figurer ces strophes entre la Ahunavaya et la première gatha. Ce n'est pas leur place dans la liturgie, ce n'est pas la place qu'ils occupent dans la liturgie, elle est purement spéculative et elle n'est présentée comme telle que par les manuscrits qui tentent déjà, J2, K5, PT4, donc les manuscrits qui tentent de donner une interprétation du texte. Dans le dernier article dont je vous parlais la dernière fois, Alberto Cantera a très bien relevé ce fait. Il semble que l'Hachem Vohu ne suive effectivement la Ahunavaya dans le Yasna 27 que dans le cas de l'intercalation du Hadogd Nask. Ce qui n'est pas bien sûr un hasard, parce qu'il est le point d'ancrage de la première intercalation. En somme, il fait partie de l'intercalation du premier chapitre, du chapitre qui est en soi un commentaire de l'Hachem Vohu. Cette question de la place des formules dans le texte avestique est aussi intéressante en soi. Et avant d'embrayer, si vous le permettez, sur le rapport de l'Hachem Vohu et puis du Hadok Nask, je voudrais faire remarquer ceci. Il est clair que voilà deux formules qui, dans l'édition de Geltner, donnent l'impression illusoire de terminer l'Yasna 27, d'introduire au gatha, mais ce n'est pas leur place dans le cursus liturgique. nous devons aujourd'hui en être conscients. Alors, quelle est leur place? Je dirais que Lienkei Hatam, dont nous sommes sûrs qu'il n'est pas vieil avestique, comme je vous le disais, n'a pas de place précise. C'est un électron libre. C'est-à-dire, c'est une formule ponctuante qui sert à installer une séparation entre deux textes. Hein. Par exemple, lorsque l'on a récité une gatha, bien, on fera intervenir un Yenkei Hatam pour séparer le texte de la gatha du texte intercalé du Videvdat, par exemple. Ça établit la différence entre les deux textes. Attention, ce qui précède, c'est la gatha, ce qui suit, c'est le chapitre du Videvdat. Peut-être aussi que c'est un peu apotropaïque, parce que bon, la gatha est positive, le Videvdat est négatif. Par conséquent, il vaut mieux intercaler quelque chose qui empêche la contamination d'un texte positif par un texte négatif. C'est possible. L'Hachem-Vohu, c'est autre chose. Je crois qu'il a une place déterminée dans le cursus liturgique. Et cette place, c'est certainement le Yasna 11-19. Le Yasna 11-19 qui est introduit au Yasna 12 Fravarané et qui, d'une superbe formule très brève, nous donne le plus bel exemple qui soit de ce que nous appelons la rhétorique praise and blame, n'est-ce pas ? Staumi Hachem, je loue Hacha, Naismi Daivo, je critique les démons. Hein ? Donc, je loue, je blâme. Hein ? Et en quatre mots, mais suis Staumi Hachem, le texte de l'Hachem Vohu. Le texte de l'Hachem Vohu. Alors, qu'est-ce que l'Hachem Vohu ? Bien, c'est de nos quatre prières, bien sûr, celles qui appartiennent en réalité au texte gathique, ça va que soi, elles ont un sens déterminé. Même si nous sommes par exemple des incertitudes à cet égard, il y a les tentatives de découvrir un sens articulé et satisfaisant sont légitimes et possibles. Le Yenkei Hatam, oui, elle représente la manière dont les rédacteurs d'une certaine époque de la période avestique récente comprenaient la strophe gathique 51-22. Elle a donc aussi un sens déterminé. La seule question qui se poserait à son égard, c'est pourquoi cette réécriture, pourquoi avoir remodelé la strophe, mais c'est autre chose. L'Hachem Vohu, par contre, bah, vous en avez l'exemple, hein, je fais figurer le texte, avec une traduction qui n'est pas une traduction signifiante. Hein. C'est une traduction littérale qui a pour but de montrer que, justement, ça paraît du charabia. Ça semble ne vouloir rien dire du tout. Hein. La traduction telle qu'elle a est tout à fait littérale, hein, c'est-à-dire le bon achat est très bon. Ouais. Le mot « ushta » est « ushta » pour lui, hein, ou plutôt les mots « ushta » pour lui sont « ushta ». Et puis, on tire la conclusion, tout ça, ça veut dire que « achat » est pour le très bon achat. Cela paraît ne rien vouloir dire. Alors, Éric Pirard et moi, en 89, nous sommes posés la question « qu'est-ce que cette formule ?» Et nous sommes partis du principe qu'elle ne voulait effectivement rien dire. Nous n'avons pas cherché à lui donner un sens précis, mais nous avons cherché à déterminer plutôt son existence. Pourquoi cette formule existe-t-elle ? Alors, ce qui nous frappait, c'était que dans le cadre que nous avions dressé pour la Unavairia et l'Arya Manishya, bon, la Unavairia, première strophe de la première gatha, bon, on marque le coup en la séparant, en la mettant en exergue. De même, mutatis mutandis pour l'Arya Manishya. La première et la dernière gatha sont signalées par une disposition, un découpage des textes en chapitres, oui. Mais et les autres, et les trois autres. Alors, nous avons fait l'hypothèse que peut-être on avait voulu évoquer aussi les gathas qui n'étaient ni la première ni la dernière, les évoquer par la citation pour la deuxième gatha de ses premiers mots, c'est « ushta armai », car les mots « ushta armai » sont les deux premiers mots de la deuxième gatha. Et quant à l'avant-dernière gatha, le Yasna 51, l'évoquer par une de ses dernières clausules, pas vraiment la dernière, Achemvohu, car l'expression Achemvohu se retrouve dans le premier hémistiche du deuxième vers du Yasna 50-20. Vous me direz, ce n'est pas la dernière strophe. Non, mais la dernière strophe a déjà été utilisée. C'était ce que nous pensions. Elle avait été utilisée pour le Yenke Hatam. Alors, elle était devenue peut-être inutilisable pour un autre usage. Nous avions fait cette hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, maintenant, je crois que nous devons reprendre le problème avec les nouveaux éléments que nous possédons. D'abord, la théorie de l'évocation est contrariée par le fait que la Shemvuhu, en fait, ne se situe pas dans ce Yasna 27-14, comme le pensait Gessner. Il est ailleurs. Alors, il y a peut-être un autre processus, il faudrait peut-être revoir. Alors, je vous propose de poursuivre en observant ce qui se produit du point de vue, quelles sont les configurations textuelles, les configurations lexicales, surtout de mots, qui apparaissent dès lors que l'on intègre au texte gathique le texte du Hadokht Nask. Contrairement à ce qui se produit dans une liturgie à Yasna seul, un videvdat, un Yasna plus visprat, ou plus videvdat, eh bien, l'Hashemvohu va suivre la Hunavairia. D'abord, c'est l'insertion de l'Hashemvohu. Ensuite, le premier chapitre du Hadokht Nask va suivre immédiatement l'Hashemvohu. Or, le Hadokht Nask 1 est une sorte de catalogue sur les valeurs variables que peut avoir la récitation de la Hunavairia. Certains Ahunavairia disent le texte en valent 10, d'autres 100, d'autres 1000. Et certaines circonstances de la vie, c'est comme ça que nous savons que ça fonctionne comme une prière, hein, sont passées en revue. Mais la dernière, l'Hashemvohu qui a le plus de valeur, c'est celui que l'on prononce, ce premier chapitre du Hadokht Nask, Oustemé Urvaïsé Gaïéhé. Urvaïsé, locatif du nom du tournant, c'est-à-dire au tournant. Hein, quand on arrive au tournant, Oustemé, suprême, final, Gaïéhé de la vie. Donc avant de mourir. Avant de mourir. Et vous voyez que cette finale, que cette dernière circonstance de récitation, nous ouvre bien sûr le Hadokht Nask 2, hein, qui va nous exposer quelles sont les péripéties qui attendent l'âme du défunt. Donc la perspective sur la mort est ouverte par la dernière récitation envisagée de la Hashemvohu. Alors, premier élément du récit du Hadokht Nask 2, dont la citation, dont l'intercalation viendra bien après, eh bien, c'est que cette âme abandonnée, l'âme masculine, l'urvan, qui s'est dégagée du corps, va rester 3 nuits auprès de la tête du cadavre. Elle reste auprès de la tête, incapable de s'éloigner du cadavre. Et chaque nuit, durant 3 nuits, elle récitera la strophe du Yasna 43.1, c'est-à-dire la première strophe de la deuxième gatha. Or, vous avez donc le texte devant vous. Vous voyez, il y a quelques éléments très intéressants dans cette strophe 43.1. D'abord, c'est la strophe qui commence par le mot « Ushta Armai ». Ushta. Donc, ce qui signifie « Ushta » est un dérivé du verbe « vouloir »,« souhaiter ». Ce verbe est « vas », degré zéro de la racine et suffixe « ti », un nom d'action en « ti »,« ushti ». Donc, Ushta est le locatif, et ce locatif est utilisé de manière exclamative. Ça veut dire assouhé, hein, bonheur pour. C'est devenu une sorte d'exclamation. Bonheur à celui, quel qu'il soit, karma et chit, dont le maître Mazda qui le peut
exauce ce qu'il souhaite, vassas, son souhait, exauce son souhait. Et puis, le récitant, la première personne du singulier, va dire ce qu'il souhaite. Or, il souhaite trois choses. C'est aller, gattoi, vers deux de ces forces d'immortalité dont, que nous avons commentées déjà, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'immortalité ni la santé les plus explicites de ces forces, mais les deux forces subsidiaires, c'est-à-dire l'utayuiti, la jeunesse permanente, et la tavishi, c'est-à-dire la robustesse du corps. Donc, deux forces d'immortalité. Il souhaite aussi soutenir Asha. Donc, c'est pas seulement Asha qui est en cause, mais c'est aussi le traitement qu'on lui applique et qui est défini par la racine d'art, qui est soutenir. Hein, c'est un terme architectural, n'est-ce pas ? Il faut soutenir au moyen d'un été. Je souhaite soutenir Asha. Et aussi, nous dit-on, voir ce que ça impliquera plus tard, bien sûr. Et puis alors, regardez, c'est très rare, c'est un mot qui est attesté deux fois seulement dans les gathas, c'est le mot Gaïa, le mot la vie. Mais ici, à l'accusatif singulier, il était au génitif, dans le Hadot Nask 1, le dernier tournant de la vie, Gaïehe, c'est le même mot, Gaïm, je souhaite la vie, hein, la vie de la bonne pensée. Alors, cela, c'est le premier élément, pourrait-on dire, utilisé dans la Shem Vohu. Et vous voyez qu'il correspond d'une certaine manière à la situation initiale que postule le Hadot Nask 2, n'est-ce pas ? Mais dans la variante négative de l'histoire, n'est-ce pas, l'ourvan de celui qui est promis à l'enfer, hein, prononcera pas ça, hein, il ne prononce pas cette strophe, mais il prononce tout de même aussi une strophe qui appartient à la seconde gatha, pas à son premier chapitre, à son dernier chapitre, au quatrième, et c'est la strophe 46.1. Je n'ai pas cru bon de la transcrire parce que ça implique, je crois que le rapport à la strophe implique beaucoup de spéculation, mais en gros, au lieu de souhaiter tout ce que je viens d'essayer d'établir, l'âme de ce futur damné, elle se demande où elle peut bien aller, parce que rien, les choses ne vont pas bien se passer. Hein, et elle se sent incapable de trouver une solution à sa situation. C'est une strophe gathique à laquelle on attribue plus ou moins ce sens qui est utilisé. Alors maintenant, je voudrais qu'on en vienne à ce qui va se passer dans les deux dernières gathas. Et à la suite de la dernière, du Yasna 53, sera intercalé le texte du Hadot Nask, du deuxième chapitre du Hadot Nask. Mais observons ce qui se passe directement avant, dans les deux dernières gathas. Les deux dernières gathas ont une particularité, c'est qu'elles ne possèdent qu'un chapitre. Un chapitre. Elles sont donc, par leur brièveté, par leur inarticulation relative, puisque elle nous représente, le texte n'est pas changeant, hein, il n'évolue pas, c'est un chapitre global, elle semble répondre à une autre motivation que les autres gathas. Et alors, nous allons exploiter ici, les auditeurs de mon séminaire des deux dernières années vont retrouver des éléments, parce que nous avons dégagé ces éléments pendant deux années, mais sans les mettre à la lumière de l'intercalation du Hadot Nask. Alors nous allons reprendre cela, si vous voulez bien. On pourrait juger que c'est dans l'avant-dernière strophe du Yasna 50 que les choses commencent. Pas dans la dernière, mais chaque dernière strophe des gathas en plusieurs chapitres, et là c'est la dernière des gathas en plusieurs chapitres, est stéréotypée. Donc, nous ne pouvons pas la comptabiliser. Mais dans l'avant-dernière strophe, donc, dans l'Yasna 50-10, c'est la seule strophe avec la cosmogonie du Yasna 44-3 qui mentionne le nom du soleil. Enfin, qui mentionne le nom du soleil. Il est question des lumières du soleil dans la strophe 50-10. Et même recevoir dans son œil, dit le texte littéralement, les lumières du soleil. N'oublions pas que ce qui va se produire dans le Hadot Nask, après cette récitation du Yasna 43.1, c'est l'apparition de l'aurore. Le vent va se lever, le ciel va s'éclairer, le soleil se lever, hein, et la Daïna apparaître. Mais les lumières du soleil caractérisent le Yasna 50 et les commentateurs de l'Avesta récent le savent très bien. Dans l'insertion du Bisprat, ils insistent sur la mention du nom du soleil dans la Gatha. Alors, observons les éléments que nous donne, n'est-ce pas, que nous donne le Yasna 56, le Yasna 51, la première Gatha de ce mouvement final. Sixième strophe, Imistich Séprime, qui semble renvoyer à la fin du Hadokt Nask 1, en signalant le dernier tournant, au locatif, au dernier tournant, Apamaï, synonyme d'Oustama, hein. Le dernier tournant, alors le nom pour la vie, ce n'est pas le mot Gaïa, c'est le mot Ahou. Je ne suis pas du tout sûr qu'avec Ahou, dans le texte datique original, comme tel, hein, n'oubliez pas notre notion d'emploi et réemploi, je ne suis pas du tout sûr que ça désigne la mort, hein, cette expression. Mais même certains exégètes modernes l'ont compris comme ça dans les Gathas. Les exégètes de l'Avesta récent aussi ont très bien pu comprendre qu'il s'agit du dernier tournant de l'existence. Bah, qu'est-ce que ça pourrait être que la mort ? Mais je ne garantis pas l'originalité de l'interprétation. Mais c'est une exégèse, une compréhension possible, et qui semble renvoyer donc à cette récitation finale de la Shem Vohu dans le Hadok Nask 1. Strophe suivante. Nous voyons apparaître les quatre entités, les deux principales et les deux subsidiaires de l'immortalité, Amurtat et Horvatat, l'immortalité et la santé, et puis les deux entités subsidiaires qui figurent dans le Yasna, 43.1, dans la première strophe, hein, la jeunesse permanente et la et l'utayuiti, et la tavishi, la robustesse du corps. À partir du Yasna 51.8, le texte pourrait bien concerner la figure de Zarathoustra, parce qu'il y a une énumération des noms propres, elle va venir plus tard. Vous voyez que dans le texte qui figure devant vous, le nom de Zarathoustra figure deux fois. Je l'ai fait parce qu'il y a son apparition dans le catalogue des noms propres proprement dit, mais il doit être présent déjà dans cette strophe 8 à cause de Mantran, car le Mantran, celui qui possède le mantra, littéralement, c'est Zarathoustra. Donc, c'est sa figure peut-être qui est évoquée en filigrane, mais il est intéressant de relever les éléments lexicaux qui, ici, se rapportent d'une part au Yasna 43.1, mais aussi au Hadok Nask. Ushta, bien sûr, Ushta, bonheur à. Bonheur à celui qui soutient Asha. Remarquez, Asha est ici aussi envisagé dans sa liaison avec le verbe dar, soutenir, Ashem d'oroidiaï, dans le Yasna 43.1, Hachem d'Adré, bonheur à celui qui soutient Hacha, dans le texte du Yasna 51. Alors, cela n'apparaît pas avec le Yasna 43.1, mais cela, c'est clair, avec le Hadok Nask. Il y a un mot très important dans le Hadok Nask, c'est que la récitation du Yasna 43.1 donne à l'âme du mort au début du Hadok Nask 2 un sentiment qui est celui de la Shiati. Shiati, c'est le bonheur de la sérénité. Plusieurs nuances sont possibles, mais c'est le bonheur calme. Lorsque l'âme a récité dans la déréliction des trois nuits, le Yasna 43.1, elle ressent la Shiati, c'est-à-dire elle se tranquillise. Elle devient sereine, et simplement elle a confiance en ce qui va se produire. C'est un mot que les sanskritistes ne reconnaîtront pas, parce que ce mot shiati, la racine n'a pas subsisté en indien. Elle a subsisté en iranien ancien, avec cette nuance, et les comparatistes verront que c'est l'exact équivalent du latin quies. Hein. qui subsiste à l'état savant dans notre mot « quiétude ». « Chiati », c'est la quiétude, à la fois étymologiquement et sémantiquement. Donc voilà le sentiment que la prononciation du Yasna 43.1 donne à l'âme du mort. Et ici aussi, n'est-ce pas, c'est le sentiment « Uvo mantra chiato ». Chiato, c'est l'adjectif, hein, c'est l'adjectif qui correspond à ce nom d'action. Le mantran, donc celui qui prononce la formule, peut-être Zarathustra, est chiata. Il est calme, il est tranquille, il est serein, hein, quand il parle à Ahura Mazda. Donc, une notion qui est aussi extrêmement importante, qui fait partie de la topographie de la mort, selon le Hadok Nask. Tout au début, qui est assez lent et assez élaboré, de l'énumération des noms propres, Yasna 12, 13 et 15, on voit apparaître ce qui peut être compris comme une topographie du paradis auquel l'âme va pouvoir accéder. D'abord, quelque chose que nous ne connaissons pas, parce qu'il ne faut pas imaginer que tout s'éclaire. Hein. C'est la seule fois qu'il est question de cela dans le texte, dans l'Avesta en général. Zarathustra est arrivé au pont de l'hiver. Ce pont de l'hiver, il ne réapparaît nulle part ailleurs dans toute la tradition mazdéenne. Donc, ne me demandez pas de m'avancer, je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais, en tout cas, il est question d'un pont, et ce pont est mis en rapport avec celui qui survient dans la strophe suivante, et qui est le pont du Chinvant. Là, c'est clair, hein, le pont du maçon, comme nous traduisons, parce qu'en réalité, ce n'est pas un pont, c'est un gué, hein, et un gué, on peut le construire. Des gués naturels, mais il y a des gués artificiels, en entassant les pierres au fond, dans le lit de l'eau, évidemment. Donc, le pont de. C'est le pont de la masseur, hein, c'est ce que ça veut dire, celui qui m'est fait un tas. Donc, ça, c'est le pont qui permet l'accès à l'au-delà, dans l'Avesta récente, clairement, dans l'Avesta ancien aussi. Donc, c'est question de. Le pont qui mène à l'au-delà. Et alors, ce qui, à partir de l'Avesta récent, le garo de Mana, c'est-à-dire la maison de l'accueil, la maison du champ de bienvenue, littéralement. Je ne suis pas du tout sûr que ça ait quelque chose à voir avec l'au-delà dans les gathas, mais dès l'Avesta récent, c'est un des noms du paradis, la maison du champ de bienvenue. Et ce que nous dit le Yasna 51.15, c'est que Ahura Mazda y pénètre le premier. Je vois plutôt ça comme une image de l'antichambre, hein, avec, où Ahura Mazda accueille l'âme du mort et le reconnaît comme quelqu'un qui a soutenu Asha. Alors, les membres du collège sacerdotal gathique vont se succéder, hein, comme nous le voyons, et Vishtaspa, dans la strophe 16, va avoir une illumination, le mot chisti, une chisti. Une chisti, c'est un mot qui a un double sens, comme nous l'avons établi l'an dernier, il a un sens concret, c'est l'éclairement du ciel à l'aube, la racine chit, dont c'est le nom d'action et le nom même de l'apparition de l'aurore, c'est l'éclairement du ciel. Et en même temps, c'est ce qui vous arrive sous forme mentale quand vous avez une idée, une illumination. Le mot peut convenir aux deux choses, hein, pour nous aussi. Donc, et alors, Vishtaspa a cette chisti, il a cette illumination, cet éclairement, cette idée, n'est-ce pas, que Ushta doit être récité, voilà, pour nous. Ushta doit être récité pour nous. Le mot Ushta, qui est donc le premier mot du Yasna 43.1, est le premier mot de la récitation de l'âme. Deuxième sacrifiant, Frasha Ushtra. Curieuse expression, parce qu'il n'est pas simple, le Yasna 51. Ce n'est pas ceux qui l'ont lu avec moi pendant 2 ans savent bien. Il y a de sérieuses lacunes dans notre compréhension. Mais regardez cette étrange expression. Voilà que Frasha Ushtra Vogva. Donc, Frasha Ushtra, fils de Hugu, montre, Daidosh, il montre le corps à la bonne Daina. Question d'un corps, il est question de la Daina. Donc le nom de l'entité féminine qui va s'installer à partir d'ici, à partir de cette strophe, dans toute la fin du corpus gathique, pas seulement du Yasna 22. Alors, la strophe 18, où le frère de Frashavshtra, lui aussi fils de Hugu, Jamaspa, prend la parole, là, je l'ai signalé à titre de... Non pas de... Pour, parce que quand même, il faudrait se demander ce que c'est. Mais je n'ai pas de réponse, parce que c'est aussi un problème de manque d'attestation. Dans cette strophe, c'est la seule, nous trouvons la seule attestation du mot Kwarna dans l'Avesta ancien. Il est au pluriel, de surcroît, alors qu'il ne l'est jamais dans l'Avesta récent. Ce mot Kwarna, qui est peut-être l'allégorie de la nourriture, nous en avons parlé lorsque de l'aliment sacrificiel que l'on offre aux dieux et que les dieux vous restituent, n'est-ce pas, grâce à ces offrandes, je ne sais pas. Pourquoi est-il là, je ne sais pas, mais je vous signale sa présence, parce que c'est un mot culturellement important, et ce n'est peut-être pas un hasard s'il figure dans cette strophe-là, mais je n'ai pas d'explication. Je signale simplement ça. Alors, les derniers membres, peut-être au pluriel, les Maïdio Imanka Spitama, donc un clan de la tribu Spitama, probablement, dans le Yasna 51-19, trouve qu'il faut trouver l'état d'existence, Ahu, car Vaidomno, c'est trouvé, et j'aurais dû faire figurer l'objet, mais c'est l'Ahu. Au dernier tournant de l'état d'existence dans la Gatha, ici, c'est trouver l'Ahu, trouver la vie. Alors, excusez-moi, il y a une erreur, c'est Dainaya, pas Dainayor, c'est-à-dire que nous avons la forme de l'instrumental, pas celle du... Dainayai, excusez-moi, non. Il faut biffer le i final. Hein. C'est Dainaya à l'instrumental, j'ai vérifié ce matin. Donc, on trouve la vie au moyen de la Daina. Trouver la vie au moyen de la Daina. Alors, Yasna 51-20, nous y sommes, c'est pas la seule attestation d'Hashem Vohu, qui fait pendant Aushta Armaï dans la formule. Dans la formule, il se trouve ici. Mais le processus ne s'arrête pas. Et peut-être allons-nous trouver ici les éléments qui vont nous permettre, qui nous permettront un jour, mais excusez-moi, je me suis occupé de ce problème depuis la parution, il y a 3 semaines, de l'article d'Alberto Cantera dans le journal asiatique, et je crois qu'il faudrait que je creuse encore un peu, mais je vous signale tout de même, parce que j'avais déjà quelques éléments à ce sujet. C'est à partir de ce « vous » qui signifie « bon hein, », bon, accordé à Asha, que va se manifester dans la Gatha un jeu complexe qui va se prolonger dans l'Yasna 53 sur les degrés de Vohu. Bon, c'est-à-dire que Vohu, bon, va se muer parfois en Varia, son comparatif, en meilleur, Varia, ou bien parfois aussi dans son superlatif, Vahishta, le meilleur, excellent, très bon, et où l'on peut comprendre, comme on comprend parfois dans certains passages de l'Avesta récent, que le but ultime du rituel, c'est de faire en sorte que quelque chose qui est bon en soi, parce qu'il appartient à l'univers divin, eh bien, le rituel vous donne le pouvoir de le rendre meilleur, ou de le rendre très bon. Et il est clair que c'est une structure qui, indépendamment du problème eschatologique qui nous retient ici, se manifeste dans ces deux dernières strophes, où l'on voit, n'est-ce pas, le pouvoir du sacrifice. Par quoi commence le Yasna 51? C'est Vohu Kshatram, le Kshatra, le pouvoir de notre sacrifice, est bon, il est bon. Ça, c'est le donné initial, ce sont les premiers mots du texte, et puis, dans la dernière strophe du Yasna 53, ce pouvoir, il devient Varya, meilleur. Et les commentateurs de l'Avesta récent, lorsqu'ils parlent de la déesse Ashi, ils insistent beaucoup sur cette donnée-là. Ils insistent là-dessus, ils disent, voilà, la déesse Ashi, elle se trouve dans la transition entre le bon et le meilleur. Il y a elle est le mouvement entre le bon qui conduit du bon au meilleur. C'est un processus que l'Agatha souligne beaucoup. Et c'est à partir de cet Ashamvuhut, de l'astrophe 51-20, que ce jeu complexe sur les degrés de l'adjectif bon va commencer à se nouer. Alors, je voudrais, dans le temps qui nous reste, faire remarquer que le Yasna 53, c'est l'Agatha du mariage. Mariage de Puruchista. Puruchista, dont le nom est dérivé de la racine Chit, l'éclair monte l'aurore, et qui préfigure, bien entendu, le mariage de la Daïna et de l'âme. Et c'est à la suite de ce Yasna 53 que le deuxième chapitre du Hadopnask est inséré, qui nous raconte, au fond, le processus que l'Agatha elle-même semble évoquer par beaucoup de ces éléments lexicaux. Je voudrais dire qu'avec cela, tout n'est pas fini, n'est-ce pas ? Parce que revenons, si vous voulez bien, à ce Hadopnask 2, 13 et 14, qui semble décrire, contrairement à ce qui se passe dans certains yashts dont nous avons parlé lors du dernier cours, non pas le début du yasna, mais la fin. Regardons bien ce texte et nous voyons qu'il semble que l'on oppose à une pratique qui consiste, lorsque tu voyais un autre, oui, le mot autre est bien l'anya, faire saouchaya, je ne m'avance pas, vous savez, ni eba ou sava, je ne m'avance pas non plus. Hoffman, à qui nous devons une tentative d'élucidation de ces termes, si je dois jeter le gant ou reconnaître, il a dit très clairement, platement, weiß ich nicht, ben, je ne sais pas. Bon, eh bien, après ça devient plus clair, mais ce sont des éléments qui n'apparaissent pas souvent dans le texte, souvent même des apax légomenones. On voit bien que varkedansta varoginthum, ça signifie faire une jonchée. On fait une jonchée. Urvaros traians, c'est aussi faire une jonchée, mais végétale. Urvara, c'est le nom de la plante. Hein, faire une jonchée végétale. Et alors, Hoffman avait, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, donné une interprétation qui était la vieille interprétation traditionnelle, c'est-à-dire que l'on oppose la bonne conduite de l'âme qui va accéder au paradis à celle de quelqu'un d'autre qui, lui, fait quelque chose de répréhensible. Et cette chose répréhensible consiste en un culte haumique particulier. Hein, Saochaya, par exemple, pour ceux qui veulent bien l'interpréter, c'est laisser le hauma pur. Ce n'est pas le mêlé de lait. Alors, faire une jonchée des branches de Hauma au lieu de le pressurer, est-ce que c'est répréhensible ? Je ne sais rien. Je n'en sais rien, ça n'apparaît pas ailleurs. Alors, faire une jonchée végétale de Hauma, ça aussi, ce n'est attesté nulle part ailleurs. Mais sinon, il n'y a strictement rien qui nous contraint véritablement à voir quelque chose de négatif dans tout ceci, n'est-ce pas ? Rien. L'opposition ne pourrait être non pas celle du praise and blame, celle du positif et du négatif, mais celle de la successivité des rites. C'est que la première partie du yasna, jusqu'à la Shemvohu qui va suivre cette fois-ci le yasna 27-13, n'oublions pas que le yasna 27-13, c'est le dernier chapitre d'une partie du yasna que l'on appelle le homast, donc, c'est-à-dire la consécration du hauma, et qui consistait en un deuxième pressurage de hauma. C'est le deuxième pressurage de hauma. Sans doute, s'il y a un rapport au hauma, il est là. Mais il pourrait désigner la première partie dont il n'est pas question d'énumérer les phases ici, n'est-ce pas ? Donc, et on semble dire à l'âme, quand tu voyais quelqu'un simplement se procéder au rituel de Hauma, c'est-à-dire à la première partie du yasna jusqu'à la Shemvohu, eh bien, toi, tu te mettais à, tu t'asseyais littéralement, mais c'est un auxiliaire incoatif, et alors tu récitais les gathas, tu rendais le sacrifice aux bonnes eaux et au feu d'Ahura Mazda, tu réjouissais l'homme juste. Comme je vous le disais la dernière fois, dans des autres leçons, c'est-à-dire la partie du yasna qui suit le corpus gathique du yasna 60 au yasna 70, n'est-ce pas ? C'est donc... alors, vous voyez où je voudrais en venir, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que si il semble qu'avec le yasna 51, le récit, le cours des gathas conflue avec le récit du Hadotnask. Et on peut imaginer que dans la fiction du cursus liturgique, à partir du yasna 51, à partir de l'Ushta, qui cite peut-être, c'est l'âme elle-même qui intervient et qui commence la récitation, qui termine plus exactement la récitation du yasna. Le rituel haomique a eu lieu, les textes de base de la récitation de l'âme pour la reconduire au mouvement qui va la porter au paradis ont été accomplis. Et c'est à ce moment-là, dans la fiction du rite, c'est l'âme qui prend la parole, qui prononce le reste du yasna. On pourrait envisager donc que cette intercalation du Hadotnask soit en réalité un rite funéraire. Hein, un rite funéraire, mais on voit bien aussi que ce rite funéraire se greffe sur quelque chose qui lui ressemble très fort, et il est très tentant aussi de considérer que le yasna 51-21, avant d'être intégré au yasna, pour ceux qui l'ont composé, était lui aussi un rite funéraire où les événements n'étaient pas extrêmement différents de ce qu'ils sont dans le Hadotnask. Au contraire, l'éclairement de l'aurore était là, la chiati de l'âme est là, la puissance du mot ushta est présente, l'apparition tadaina est présente et la représentation matrimoniale, elle aussi, est présente. Et l'idée que tout se définit par la transition de bon à meilleur se trouve là aussi, n'est-ce pas ? Ce que je voudrais vous faire remarquer ici, je voudrais encore vous faire remarquer peut-être avant que nous nous séparions aujourd'hui, si vous permettez de le retrouver dans mes notes, je vous donne cette idée que les trois textes qui sont évoqués ici de la fin du yasna, c'est-à-dire la Dharma Afriti, l'Atash Niyayishne pour le feu et l'Abzor, ont une expression en commun. Yasna 66 pour la Dharma Afriti, 60.6, hein, 62.1 pour l'Atash Niyayishne, 68.14 pour l'Abzor. On annonce aux Ameshaspenta dans le premier texte, au feu dans le deuxième, aux eaux dans le troisième, on leur annonce la Huberti, c'est-à-dire la bonne offrande. La bonne offrande. Et puis, avec toujours second terme Berti, suivent deux mots qui semblent étranges. C'est l'Ushta Berti. Et la Vanta Berti. Alors, on peut traduire, n'est-ce pas, en donnant aux mots leur sens général. L'offrande désirable, l'offrande que vous souhaitez, l'offrande charmante, c'est le charme, oui. Mais Bartholomée l'a vu pour ce mot-ci, dans ses notes. Il ne l'a pas vu pour celui-là, dans le dictionnaire. Ushta est le premier mot du Yasna 43. Et Vanta est le dernier mot du Yasna 51. Alors, vous voyez, notre tentation est de traduire, non pas de manière générale, mais de manière absolument déterminée, comme la bonne offrande, c'est-à-dire l'offrande qui commence avec le mot Ushta, c'est-à-dire qui commence avec le Yasna 43.1, et l'offrande qui se termine avec le mot Vanta, c'est-à-dire qui se termine avec le Yasna 51. Ceci m'invite peut-être à faire une autre remarque. Lorsque nous parlons d'intercalation de textes dans la pratique d'aujourd'hui, même probablement dans la pratique sassanide, le texte des gathas est plus ou moins intangible. Toutes les gathas sont récitées, à partir du Yasna 27-13 jusqu'au Yasna 54-1. La seule modification, la seule variabilité, c'est que parfois la troisième gatha passe avant la deuxième. Mais ça, le texte est intangible en dehors de cela. Mais d'après ce que nous pouvons peut-être comprendre lorsque nous lisons les sacrifices des yachts dont nous avons parlé ensemble il y a deux fois, c'est que peut-être l'Avesta ancien n'était pas toujours entièrement récité. On pouvait sélectionner les textes. Parfois, peut-être, ne prononçait-on que Launa Vairia. Peut-être parfois simplement ça. Le texte du Shusho Mantra, par exemple, on prononce une fois dans l'Yasht 10, mais pas dans les autres sacrifices. Peut-être que le texte n'était pas insécable comme il l'est aujourd'hui. Et on pouvait peut-être sélectionner un passage de l'Avesta ancien. Alors, voilà peut-être un exemple. N'est-ce pas, lorsque on insérait la Shemvuhu dans le texte pour le Hadoknas, on pourrait faire l'hypothèse, par exemple, que l'on ne prononçait pas la Gatha Hunavaiti, que le texte commençait effectivement avec le Yasna 43.1, ce que semble vouloir dire Ushtaburti, et se terminait avec le Yasna 51, ce que semble présenter le mot Vanta. Alors, j'espère que nous avons compris les perspectives qui peuvent s'ouvrir aujourd'hui dans l'examen des cérémonies d'intercalation, mais c'est un tout nouveau domaine qui s'offre à notre réflexion. Et ce que je viens faire aujourd'hui devant vous était bien sûr, je le répète, purement expérimental. Je vous remercie.